je remercie tout d'abord la médiathèque qui nous accueille ce soir, ainsi que la librairie Sorams, son directeur, M. Jean-Marie Sevestre, et Dominique Perrin, qui a toujours été notre hôtesse depuis de très très nombreuses années maintenant. Et donc aujourd'hui, nous voici réunis pour autour du dernier livre d'Elisabeth Rudinesco, publié à l'occasion du 30e anniversaire de la mort de Lacan. Alors, cette œuvre, je dirais, pour introduire un peu le livre d'Elisabeth, est dans une, peut-être une tonalité qui, quelquefois, sera un tout petit peu en décalé par rapport à elle. Ce livre intervient après 30 ans de destinée post-mortem de Lacan et de son œuvre. Et cette destinée s'est jouée, de deux façons tout à fait opposées et qui ont dominé la réception de Lacan. Pour certains, et ce reste encore tout à fait vrai aujourd'hui, pour certains, Lacan est un auteur abscon, fantaisiste, illisible. Certains journalistes ne se gênent absolument pas pour ricaner, puisque chacun fait de sa propre intelligence le critère de la vérité. Et donc, pour certains, ce critère est assez bas. Et alors, à l'opposé, il y a eu un autre destin qui me paraît tout aussi négatif. C'est que l'œuvre de Lacan a été reçue, par les lacaniens, ce qu'on appelle lacaniens, a été reçue comme un catéchisme. C'est-à-dire une œuvre qu'il fallait absolument déchiffrer pas à pas, et avec l'idée que lorsqu'on aurait compris Lacan, on aurait compris la psychanalyse et on aurait compris l'humain. Donc des équipes se sont formées pour commenter Lacan comme les clercs au Moyen-Âge le faisaient des textes sacrés, hein, dans une longue rumination. Tout ceci a produit une vision très, très pétrifiée de Lacan, très momifiée, je dirais, de l'œuvre de Lacan, qui n'est pas Lacan et qui n'est pas son œuvre. Ce que je dirais, hein, à l'opposé de ces deux visages de la réception de Lacan, c'est que le style de Lacan, qui a souvent été soit l'objet d'émerveillement, soit l'objet de dérision, que ce style de Lacan s'impose parce que Lacan n'est sûrement pas un homme qui nous a apporté des réponses, mais qui nous a posé des questions. Et poser des questions, c'est le propre de toutes les grandes œuvres et de tous les grands auteurs, les plus grands. Hein. Hegel disait « L'histoire de la philosophie n'a jamais été que quelques notes mises en marge de l'œuvre de Platon. Hein. » C'est-à-dire que les grands auteurs viennent susciter un travail de pensée qui fait que les lecteurs sont mis au travail. Et c'est ce visage de Lacan que Elisabeth aujourd'hui nous présente. C'est un Lacan qui est un éveilleur, c'est un Lacan qui est un questionneur, c'est un Lacan qui met au travail et non plus à la rumination comme je disais tout à l'heure, c'est un Lacan qui pose des questions tout à fait fondamentales qu'Elisabeth ponctue et qui de ce point de vue laisse ses lecteurs aujourd'hui dans une grande liberté. Certains textes, j'en parlais avec Elisabeth cet après-midi, certains textes, à propos de l'un qu'elle signale comme peut-être étant un peu abscon et peut-être un peu en dérive, qui s'appelle Iturater, qui est un livre complètement difficile, complètement obscur. Hein. Mais c'est un livre qui, lorsqu'on le travaille, lorsqu'on se met soi-même au travail dans l'écriture de Lacan, qui réserve des surprises tout à fait étonnantes. Et je crois que l'avenir de Lacan, il est là. Or, ce que nous présente donc Elisabeth aujourd'hui, ce n'est pas un remake, ni un résumé, ni un digest de son gros livre sur Lacan, de sa grosse étude de 93 sur Lacan, qui est un ouvrage majeur sur l'homme, sur la pratique et sur la théorie de Lacan. Ce qu'elle nous propose, c'est dans une tradition qui est celle des mémorialistes du XVIIe siècle, Et Saint-Simon, c'est un portrait vivant. C'est faire revivre un homme dans sa singularité, avec ses dérives, ses défauts, parfois ses traits odieux, car Lacan a été certaines fois odieux. Mais cet esprit qui a toujours été dans une invention perpétuelle, une perpétuelle relance de lui-même, ce qui est véritablement à l'opposé de cette œuvre sur papier glacé qui fait aujourd'hui ce qu'on appelle le lacanisme. Le lacanisme, c'est ce qu'il y a sans doute de plus opposé à Lacan. Et c'est donc ce que nous propose Elisabeth dans son livre, donc Lacan envers et contre tout. Moi, je dirais, pour terminer, que ce qu'elle nous propose, c'est un visage de Lacan à l'envers. Lire Lacan à l'envers de tout ce qui nous est proposé, parce que l'envers de Lacan est beaucoup mieux que l'endroit. Voilà. Et je passe la parole à Elisabeth Rodinesco.
Écoute, je te remercie. Je ne sais pas si l'envers de Lacan est mieux que l'endroit, mais l'envers, en tout cas, 30 ans plus tard... j'avais envie d'éclairer autrement ce que j'ai déjà dit, dans la tradition d'ailleurs d'un retour, pas seulement au texte de Lacan, mais à ce que j'ai moi-même fait pendant 30 ans, depuis, parce que j'avais pas reparlé de Lacan, pas beaucoup de l'histoire de la psychanalyse, sauf que, évidemment, quand on a fait le dictionnaire de la psychanalyse avec Michel Pons, ça c'est autre chose, mais j'ai écrit autre chose depuis. Et retourner... à la méthodologie, à Lacan, de cette façon-là, pour en éclairer un autre, ça, évidemment, m'a intéressé. Alors, j'ai repris cette idée que j'avais développée de Marc Bloch, robespierriste, anti-robespierrique, dites-nous qui est Robespierre. Donc, il y a un rappel. Et c'est vrai que l'envers, j'ai plus insisté sur le dernier Lacan, celui de Littérateur, dont tu parles, le Lacan fait des néologismes, qui invente des néologismes, qui s'identifie à Joyce, le Lacan de la chose, la peste, le réel, c'est celui de cet hétérogène absolu qui échappe au symbolique, et le Lacan qui se défait lui-même tel Édipe à Colonne, puisque on sait que Lacan n'a pas commenté la tragédie d'Édipe comme Freud, mais Antigone et Édipe à Colonne, c'est-à-dire deux figures de l'extrême, l'extrême vieillesse, le Édipe mourant, et puis Antigone, figure extrême, puisqu'il montre qu'elle est pire que le tyran. C'est elle d'ailleurs le tyran plus que Créon. Et puis aussi le Lacan de Kant avec Sade, théoricien de la perversion, où apparaît évidemment en contrepoint de et à la même époque de ce que disait Hannah Arendt, de l'inversion de la loi. Donc j'ai repris comme ça des moments importants, et tu as raison de dire qu'il y a l'envers. C'est vrai qu'aujourd'hui j'avais envie de faire l'envers. Alors quant au titre, Envers et contre tout, il a une histoire. J'avais intitulé un de mes chapitres sur les pervers, Sade, envers et contre lui-même. Dans mon histoire des pervers, la part obscure de lui-même. Et je commentais dans ce texte d'ailleurs ce que Lacan avait dit de Sade. Et en faisant ce livre-là, en réfléchissant, je me suis dit, tiens, Lacan à l'envers, l'envers, Lacan, et puis Lacan lui-même, l'envers de la psychanalyse, et puis évidemment, c'est une phrase de Lacan, puisque dans son séminaire d'Antigone, il dit envers et contre tout. Et il a repris la formule, je crois que ça vient du Moyen-Âge, défendre le Seigneur envers et contre tout. C'était les duels, les hommages chrétiens. On défendait quelqu'un envers et contre tout, c'est-à-dire jusqu'à la mort. Je crois que c'est ça vient de là. Tu dois savoir ça.
Non, je ne le sais pas.
Tu m'as tellement fait marcher pour venir vite que...
Oui, ce qui m'apparaît dans le livre d'Elisabeth, c'est que d'abord elle nous présente un homme. elle nous présente un homme singulier, qui tient du dandy, qui tient du libertin du XVIIIe siècle, du provocateur, vieille France en, par d'autre côté, et en même temps par d'autre côté au contraire, très, très en avance sur son temps et sur certaines positions. Donc, découvrir ce personnage, pour ceux qui ne le connaissent pas, enfin, donc ceux qui n'ont pas lu le grand livre d'Elisabeth, j'y reviens toujours, hein, car le grand livre d'Elisabeth sur Lacan, c'est son je vais pas dire son pavé, mais c'est quand même un pavé, hein, de 93. Découvrir ce personnage permet de mieux comprendre d'abord la façon qu'il a d'écrire, hein, de le suivre dans son parcours. Dessus dans son parcours, parce que c'est un homme qui a un parcours, comme Picasso a eu un parcours. Hein. Lorsqu'au musée de Barcelone, on découvre les œuvres de Picasso, on voit un jeune homme tout à fait académique, hein, qui commence par des œuvres qui sont des œuvres hyper classiques, hein, et qui va par une évolution, non pas par des métamorphoses, mais par une évolution régulière, qui va aboutir à celui que nous appelons Picasso. De la même façon, Lacan n'est pas né Lacan. Ce que nous présente Elisabeth, c'est un jeune psychiatre très brillant, qui va faire une thèse donc très brillante, et là, je vais laisser Elisabeth en parler, bien entendu. Et ce jeune psychiatre très brillant qui est attiré tout de suite par les hommes de lettres, par les surréalistes, hein, va produire cette alchimie très particulière d'un esprit scientifique, d'un psychiatre, d'un médecin, avec en même temps le monde des lettres, des arts, de la philosophie, de la pensée. Et en ceci, ça c'est une chose que tu n'indiques pas, mais que je souligne, il y a vraiment une antithèse trait pour trait absolue entre Lacan et Freud. La personne de Lacan, c'est l'anti-Freud. Freud est un bourgeois, conservateur, sérieux, hein. Ferenczi disait de lui à Grodeck ou le contraire, hein, j'espère qu'il n'a pas désappris à rire, hein, parce que Freud c'est pas un rigolo.
Avec un humour quand même viennois.
Mais un humour glacé.
Ouais.
Un humour glacé. Oui, oui. L'homme qui en quittant Vienne dit je recommanderai la Gestapo à tous mes amis. Bien sûr, c'est de l'humour.
Il fait d'ailleurs le salut nazi en arrivant dans le.
Voilà, hein, mais c'est un humour qui fait froid dans le dos. Tandis que chez Lacan, il y a une dimension histrionique, dans des tenues abracadabrantes, un peu folles, des cigares, voilà.
Et ça pourrait comparer les cigares de Freud et les cigares de Lacan. Ah ben,
on pourrait comparer les cigares de Freud et les cigares de Lacan. Les cigares de Freud, ils sont rectilignes.
Oui,
ils sont tirés au cordeau, les cigares de Freud.
C'est les cigares classiques. Voilà. Les gros cigares. Et Lacan, c'était les cigares tordus. Donc, c'est la torsion baroque. Tout est baroque.
Absolument. Voilà. C'est ce personnage baroque que vous allez découvrir à chaque ligne dans ce livre. Et c'est dans ce devenir d'un personnage, mais qui jusqu'au bout, que se présentent les grandes scansions qu'Elisabeth Roudinesco nous présente dans son œuvre. Ceci dit, il y a un point commun si Lacan est un anti-Freud au niveau de la personne et au niveau également du style, car il n'y a pas de style plus clair, plus simple, plus évident que le style de Freud. En allemand. Moi, quand j'ai appris l'allemand, je ne comprenais pas les auteurs allemands que je pouvais lire de la littérature. En revanche, dès que j'ai ouvert Freud, j'ai tout compris. Tellement c'est ça. Bon. Mais en revanche, il y a un point commun, puis je rends la parole à Elisabeth, parce que vous êtes venue pour l'entendre, elle et pas moi.
Oh, entendre toi aussi.
Bon, il y a un point commun, c'est que ces deux hommes ont été jusqu'au bout habités par un rapport absolu et jusqu'au bout à la vérité. Ce sont des hommes qui n'ont cessé de remettre leur œuvre en cause, en question, et en permanence d'avancer contre leur propre œuvre passée pour la faire progresser. Et ça, c'est le trait évident de Freud et de Lacan. Voilà pourquoi essayer de codifier l'œuvre de Lacan pour en faire un dogme, c'est la plus sûre trahison que l'on puisse faire de Lacan. Et c'est quand même celle aujourd'hui qui domine. Voilà.
Tu repris ton souffle un peu.
Oui, pas dans le monde anglo-saxon.
Ah ben oui, ouais. Mais chez nous. Je...
Oui. La question de la grande différence, mais elle est capitale. Freud est un homme né au XIXe siècle. et qui reste ancré dans une tradition des Lumières allemandes, du romantisme, conception de l'amour romantique, qui va marquer tout le XXe siècle. Et c'est vrai que la deuxième partie de son œuvre, à partir de 1920, a quand même un aspect très spéculatif. Les textes sont pas si faciles que ça. Mais enfin, du point de vue de la lisibilité, il n'y a aucun problème à lire Freud. Et puis, l'œuvre de Freud, il y a 20 000 lettres, dont 10 000 qu'on a retrouvées. Donc aujourd'hui, on ne peut pas lire l'œuvre de Freud sans la correspondance. Autrement dit, quand Freud meurt, l'œuvre est achevée. Il n'y a plus qu'à publier la correspondance. Mais il y a un corpus achevé. Et en effet, cet homme est classique. Dans sa vie, il est classique. Mais alors, ce qui est frappant, c'est que ce Freud-là est tout autant attaqué comme escroc, charlatan, démon que l'est Lacan. Alors, je ne dis pas que Lacan, ça s'y prête, mais les traits extravagants de Lacan font que ça serait plus sujet à la critique que Freud. Eh ben non. Il y a autant de brûlots contre Lacan que contre Freud. Donc, on se dit bien qu'il y a des brûlots contre quelque chose derrière. Mais cela dit, il y a des brûlots contre Darwin, contre Einstein, contre Sartre, contre Simone de Beauvoir. Donc, je dirais que dès qu'il y a de la pensée ouverte, on est insulté. Ça, c'est à peu près certain. Maintenant, ils sont contraires, et rien ne prédisposait Lacan à être ce rénovateur de la psychanalyse. C'est une chose que j'ai étudiée longuement. Pourquoi Lacan? Pourquoi s'est-il intéressé à Freud? On aurait attendu historiquement en France tout à fait autre chose. Or, là, il faut faire un point de comparaison. Quand Lacan émerge en 1930, il n'y a pas eu en France de penseurs de la psychanalyse. Il y a une société psychanalytique avec des fondateurs, Laforgue, Marie Bonaparte, qui sont tout à fait honorables et dont je vais raconter l'histoire, mais ce n'est pas des penseurs et ce n'est pas des grands disciples de Freud. Ce n'est pas l'envergure de Ferenczi, de Jones, de Rank, voilà. Non, mais aucun des fondateurs de 1926 n'ont l'envergure des disciples de Freud. Et c'est tellement vrai que Freud désespère de la France. Et dans beaucoup de lettres, à un moment donné, il dit « Mais qu'est-ce qui se passe en France ?» En France, on n'a jamais. On a la tradition de la psychologie universitaire. Et Freud, qui avait commencé avec Charcot, il se demande ce qu'il fabrique en France. Alors, certes, quand Marie Bonaparte émerge, c'est l'ambassadrice de Freud, elle vient à Vienne, il adore Marie Bonaparte, elle traduit son œuvre, elle a une activité considérable. Mais je crois qu'il y avait un manque fondamental. Alors, pourquoi Lacan? Et pourquoi pas l'équivalent à ce moment-là d'un Ferenczi? Parce que c'est très spécial. Ça, c'est la France. C'est la France, et c'est ce que j'ai essayé de montrer. On est le seul pays, au départ, où la classe intellectuelle s'intéresse à ce point aux idées neuves. Depuis la Révolution française, depuis les encyclopédistes, il faut remonter aux encyclopédistes, et depuis l'affaire Dreyfus. Ce qui fait que Lacan occupe, à partir de 1930, une position très spécifique à la France, qui est à la fois d'incarner une figure d'intellectuel et de penseur et une figure clinique. Et à l'époque, pour le mouvement psychanalytique tel qu'il était installé partout, je parle des années 30, Lacan n'est pas du tout à l'image des autres de sa génération, de sa génération. Alors, c'est vécu par le mouvement analytique dès 1936, quand Lacan fait son exposé sur le stade du Miroir pour la première fois à Marianne Bad, personne ne comprend rien. Dans l'internationale freudienne, on est au moment de l'héritage, il y a tous les freudiens qui ont immigré, et Lacan fait figure hétérodoxe. Alors pourquoi? Il vient donc d'un autre horizon, et surtout, il vient à ce moment-là, dans les années 30, d'un horizon de psychiatres. Alors ça, il y avait beaucoup de psychiatres dans le mouvement psychanalytique, mais il est marqué par l'enseignement de Gaëtan Gassian de Clérambeau, qui est un anti-freudien radical. Il est marqué par les surréalistes. Et dans la société psychanalytique de Paris, dans les années 30, Lacan fait figure de personnage absolument extérieur. Il a pourtant une formation classique, fait 8 ans, 7 ans et demi d'analyse. Tout devrait montrer que Lacan va être important dans le mouvement psychanalytique, mais dans l'entre-deux-guerres, c'est le milieu intellectuel et littéraire qui, en premier, en 1932, reçoit sa thèse de médecine sur un cas de paranoïa. Il est consacré à l'extérieur du mouvement psychanalytique en 32. Ça, c'est très important. C'est de l'extérieur qu'on va se rendre compte de l'importance de ce qu'il fait à ce moment-là. C'est-à-dire René Crevel, Nizan, les intellectuels. Et ça va le marquer jusqu'aux années 50. Il n'est pas du tout aimé dans le milieu psychanalytique. Alors après, à partir de 1950, là, il va devenir un maître à penser dans la communauté psychanalytique. Je rappelle qu'il est de la même génération que Lagache, Nash, etc. Et là, évidemment, il va émerger et ça va commencer à se voir. Mais au départ, il y a une extériorité. Et puis, Lacan a pas rencontré Freud. À une époque où tous les disciples, tous les psychanalystes allaient à Vienne encore voir Freud, il aurait pu. Quand Marie Bonaparte reçoit Freud sur le chemin de l'exil à Londres, Lacan n'est pas là. Et Lacan avait envoyé sa thèse à Freud, qui met merci Monsieur Lacan. C'est pas lisible. Et donc, il va y avoir une identification de Lacan, non pas à l'homme Freud. Il n'est pas un disciple. Il n'est pas proche. Il n'est pas formé par Freud. Il est extérieur. Donc, c'est à l'œuvre de Freud que Lacan s'identifie. Et d'autre part, il apprend à commenter Freud au contact de Alexandre Kojève qui commente Hegel. Et pas du tout au contact des psychanalystes de sa génération qui lisent Freud d'une toute autre façon. Et cette extériorité va rester constante puisque Lacan aura toujours une position, je dirais, à la fois centrale et marginale. Acceptée à partir des années 50 par l'internationale freudienne, mais quand même très éjectée très vite pour sa position très particulière. Alors aujourd'hui, c'est plus comme ça, parce que 30 ans après sa mort, dans l'internationale freudienne classique, l'IPA, l'International Psychoanalytical Association, qu'il avait rejetée en 1963, on lit Lacan normalement. Son œuvre est autant lue dans l'IPA. Et dans toutes les internationales psychanalytiques, elle appartient plus du tout au lacanien. Je parle là même du mouvement psychanalytique. L'œuvre de Lacan est lue par l'ensemble du mouvement psychanalytique international qu'il avait rejeté. Mais, en revanche, ce qui reste très clivé, c'est les lacaniens, qui sont tous freudiens, et les freudiens classiques de l'international. Autrement dit, la tendance de l'IPA, de l'international freudienne aujourd'hui, c'est de bien accepter l'œuvre de Lacan, mais pas les pratiques des lacaniens. En tout cas, de tous les lacaniens, parce que ce qui reste un sujet de très grande discorde, c'est les séances, c'est le legs des séances ultra-courtes. Je dis pas que tous les lacaniens pratiquent des séances ultra-courtes, mais le dernier Lacan est très imité par un certain nombre de lacaniens, et là, en effet, ça fait clivage sur le plan technique. Dans le monde entier, pas qu'en France. En revanche, donc, l'œuvre est passée à la postérité pour tout le monde. Et puis, comme d'ailleurs celle de Freud ou d'autres, Lacan n'appartient plus du tout, rien qu'aux psychanalystes. Donc, elle est lue partout dans le monde, hors du milieu psychanalytique. Dans le monde anglophone, on en fait une anthropologie, puisqu'il n'y a pas de département de philosophie comme en France, mais dans les départements de cultural studies, Lacan est lu comme un post-moderne. là, il faut changer de casquette, hein, quand on va dans le monde anglophone. Il n'y a pas beaucoup de psychanalystes lacaniens. Mais en revanche, l'œuvre de Lacan est lue dans tous les départements de lettres et pas seulement de French Theory. Aussi comme un déconstructeur de la culture occidentale. Comme celui qui met en cause la toute-puissance symbolique du père, comme celui qui permet de déconstruire la société capitaliste. C'est très curieux, hein, alors qu'en France, c'est pas ça du tout. Hein. Il reste encore très 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 lu et beaucoup par les psychanalystes, mais de moins en moins, hein, de moins en moins. Alors toi et moi, on est complètement à la jonction parce que on est universitaires, t'as autant une formation littéraire et intellectuelle que clinique, mais je pense que dans les générations à venir, Lacan, les psychanalystes, dans leur type de lecture de Freud, et tu le disais, si elle continue à être répétitive, sectaire et de perroquet, voilà, et attachée, ruminante, elle va complètement échapper au milieu psychanalytique, comme l'œuvre de Freud a totalement échappé aujourd'hui au milieu psychanalytique. Ça veut dire que les analystes ne lisent pas Freud. En France, ils continuent à le lire, mais dans le monde anglophone, par exemple, les psychanalystes ne lisent plus Freud. Ils lisent un peu de Freud, hein. Ils se réclament de Freud, mais quand on voit les praticiens de l'international aujourd'hui, ils s'occupent exclusivement, je dirais, la clinique post-kleinienne est beaucoup plus présente. Ils s'occupent de troubles narcissiques, de problèmes de self-psychology, ils lisent un petit peu Lacan, bien sûr, ils lisent un peu de tout. Mais je dirais que les travaux érudits sur l'œuvre de Freud, dans le monde anglophone, il n'y en a pas du tout chez les psychanalystes. Mais il y en a chez les historiens, chez les anthropologues. Et ben, c'est la même chose qui va se produire pour Lacan. Donc attention, hein, je ne dis pas que les psychanalystes sont dépossédés de Freud, de Lacan, mais je dis qu'il y a un clivage de plus en plus grand entre les commentateurs des deux bords. C'est inéluctable, c'est comme ça. Il faudrait un électrochoc à la communauté psychanalytique pour qu'il recommence à lire Freud autrement. Freud et Lacan, de la même façon. Ce phénomène, on le voit. Et d'ailleurs, quand on réfléchit, moi qui ai participé aux grandes querelles des historiens américains dans les années 90 concernant les archives Freud, l'ouverture des archives Freud, la lecture orthodoxe de Freud, la lecture hétérodoxe, etc., il n'y avait pas de psychanalystes dans cette bataille. Il n'y avait plus que il y avait quelques-uns, mais très très peu. Il n'y avait plus que des spécialistes de l'histoire du corpus freudien. Probablement qu'il va se passer un petit peu la même chose avec Lacan. Donc il y a plusieurs Lacans. Et en effet, celui-là, il m'est plus personnel.
Mais je vais dire quelque chose qui va faire bondir Elisabeth et peut-être certaines personnes. Mais la grande opposition, me semble-t-il, qu'il y a entre Freud et Lacan, parce qu'ils s'occupent dans l'histoire du mouvement analytique des places quand même tout à fait différentes. Le fondateur et le fondateur indiscutable, c'est Freud. Hein, si Freud n'avait pas existé, il n'y aurait pas d'histoire, il n'y aurait pas de psychanalyse. C'est que ce qui me semble distinguer les deux œuvres et les deux auteurs et les deux types d'écriture, c'est que Freud est un homme de la pensée et Lacan est un homme de l'intelligence, mais d'une intelligence absolument exceptionnelle. J'en donnerai un petit exemple dans un instant. Je veux dire que j'ai pas le sentiment, et c'est là que peut-être certains vont bondir, j'ai pas le sentiment que Freud soit très intelligent. De même que je dirais que Victor Hugo n'est pas très intelligent et que Paul Claudel n'est pas très intelligent. Mais ce sont tous des génies. Le génie n'a pas besoin d'intelligence. Le génie, c'est quelqu'un qui va à l'essentiel avec une sorte de sûreté absolue et qui trouve. Les manuscrits de Freud Freud écrit au fil de la plume. Ça semble absolument sidérant de voir que les textes les plus difficiles de Freud...
Tu as raison de comparer avec Victor Hugo.
Voilà, sont écrits au fil de la plume. Hein, sont écrits au fil de la plume. Et qu'on a cet homme qui est absolument sidérant. Alors ce qui fait, là, tandis que Lacan est une intelligence absolument extraordinaire, hein, et que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que quand on compare le Lacan, et puis ses contemporains, alors tu disais Nach, Laforgue, Bouvet, hein, ce sont des gens qui pour moi sont illisibles. J'ai essayé de lire Bouvet. J'ai essayé de lire Bouvet, mais les livres me tombent des mains. Parce que c'est épais, c'est lourd, ça ne suscite pas le désir de lire chez le lecteur. Tandis que ce qui est formidable chez Lacan, c'est une intelligence absolument fulgurante. Et le génie de Lacan a été d'avoir rencontré Freud, sans doute, et d'avoir vu ce qu'il y avait à, qu'il y avait là une mine de pensée absolument inouïe. Hein, Freud, c'est le grand penseur à cheval sur le 19e et le 20e siècle. Et que cette mine, les gens l'avaient abandonnée, l'avaient laissée en chantier, ouverte, et que là, on pouvait revenir. Et il est revenu sur cette mine, il a re-exploité, il a remis en exploitation, et il en a récupéré, bien sûr, des trésors. Alors, je donne une anecdote très, très rapide. J'avais un collègue italien, Roger Dragonetti, qui me disait qu'un soir, il avait mangé, qui était un grand spécialiste de la fine amore et des troubadours, et qu'un soir, il avait mangé chez un repas où il était invité, il y avait Lacan. Et on l'avait placé à côté de Lacan. Et au cours du repas, la conversation est venue, parce que c'était la spécialité de Dragonetti, sur l'amour courtois, qui s'appelle donc la fine amour, pour les troubadours. Et à ce moment-là, Lacan s'est complètement arrêté de manger pendant tout le repas. Il s'est littéralement couché sur Dragonetti. Dragonetti m'a dit, il s'est couché sur moi. Et pendant tout le repas, en prenant sa main en coquille, il a écouté Dragonetti lui parler de la fine amour des troubadours. Et le lendemain, Dragonetti m'a dit, à 7h du matin, Gloria, sa servante, sonnait chez moi en me disant, je viens de la part du docteur Lacan, vous demandez les livres dont vous lui avez parlé hier soir. Alors Dragonetti m'a dit, j'ai enfilé une robe de chambre, je suis allé dans ma bibliothèque, je lui ai sorti les bouquins. Eh bien, peu de temps après, Lacan allait donner une théorie, on peut dire, de la fine amour qui est purement et simplement exceptionnelle. Exceptionnel. Il a donc piqué.
Est-ce qu'il a rendu les livres?
Ah, Jean-Guy ne l'a pas parlé, mais voilà. Mais en entendant quelqu'un lui parler de sa spécialité, il découvre le trésor qu'il y a dans le discours de l'autre, que l'autre ne savait pas détenu dans son trésor. Donc Dragonetti détenait un trésor sur l'intelligence de l'amour courtois, mais sans savoir qu'il le détenait. Et ça, Lacan le pique, je dirais, avec une intuition, je dirais, de cochon qui trouve des truffes. Voilà. Mais qui ne les mange pas. Hein. Qui les prépare.
Des anecdotes comme ça, voilà. Il y en a 10
voilà,
000.
Voilà, ça c'est exceptionnel.
Le côté ogre.
Il balait d'un revers de main toutes les théories universitaires sur la fine amour. Il donne vraiment le statut de la dame courtoise. Voilà. Et ça c'est sidérant. Ça c'est sidérant. Et c'est cette intelligence qu'il a toujours appliquée chaque fois qu'il s'est engagé dans un texte, bien entendu, avec Freud. Là, il avait un champ inouï à mettre en vie. D'autant plus que Freud, comme disait Elisabeth, Freud est aujourd'hui en jachère. Et il était déjà du temps de Freud. Et du temps de Lacan. Donc Lacan dit il faut retourner à Freud, mais la phrase de Lacan, l'ordre de Lacan est toujours valable. Il faut retourner à Freud. Ceci dit que plus personne, comme disait Elisabeth, ne retourne à Freud. Hein, et que Freud est un penseur titanesque.
Il y a un nombre considérable de livres dans le monde entier sur Freud quand même.
Théoriquement, sur les écrits de Freud, aujourd'hui je parle en France.
En France, oui.
Les psychanalystes. Monsieur Colby ne plus beaucoup d'œuvres de Freud.
Les psychanalystes n'écrivent pas beaucoup de livres érudits. Ils écrivent des livres cliniques. Il y en a un par jour de livres cliniques en France. Ils écrivent des cas cliniques. Pas beaucoup de livres, je dirais, érudits. Alors, pour revenir à ton portrait de Lacan Dragonetti, il a fait la même chose avec Lévi-Strauss, la même chose avec... Il y avait ce caractère de dévoreur de Lacan, toujours à l'affût. Alors maintenant, en ce qui concerne les deux styles, ils sont évidemment très différents. Il y a une difficulté plus grande à lire Lacan, mais je dirais aussi qu'on oublie un peu aujourd'hui que c'est pas très facile de lire Hegel, Spinoza et Heidegger.
Et Freud aussi.
Alors, et Freud, voilà, parce que en effet, tout dépend ce qu'on lit. Le style de Freud est clair, simple, ce qui dit est quand même assez compliqué dans certains textes, mais c'est pas le même type d'écriture, ça c'est exact. Et comme tu dis très bien, je suis assez d'accord avec cette comparaison sur l'intelligence et la pensée. C'est vrai que Freud avait une pensée au fil de la plume. Il était plus un écrivain, d'ailleurs. Les choses venaient comme ça. Alors que Lacan avait énormément de difficultés à élaborer. Et il y a des textes de Lacan vraiment très difficiles à lire. Il ne faut pas exagérer. Il y en a beaucoup de très, très, très difficiles à lire, surtout à la fin. Et puis, il y en a de plus simples. Hein. Il y a les deux. Peut-être faire
voilà. Voilà, je pense que nous avons beaucoup parlé. Peut-être des questions sont là face à ce personnage qui est un personnage qui aujourd'hui reste très intriguant. Hein, parce que il y a donc ces deux légendes, je dirais. Ces deux légendes, la légende noire de Lacan, mystificateur, et la légende grise d'un Lacan professeur de catéchisme. Hein. Et puis, il y a ce Lacan étonnant qui... Heidegger disait d'Hölderlin, il vient vers nous de l'avenir. Je pense que Lacan fait partie de ces auteurs qui viennent vers nous de l'avenir. C'est-à-dire, ce ne sont pas des auteurs du passé, ce sont des auteurs de l'avenir, et c'est en allant à leur rencontre que nous allons à la rencontre de notre propre avenir.